je ne comprends pas. Malgré ma bonne volonté, eh bien, j'ai une conduite un peu bizarre. Je suis rebelle. C'est-à-dire que je ne supporte pas, disons, que l'on s'occupe de mes affaires. Je trouve que les gens se trompent quand même un homme politique, même un pasteur nous fait de grandes annonces. Je trouve qu'aussi dans mon entourage, ils sont lourds. Et donc, ça me met dans un état fébrile, si vous voulez, et c'est quand même pas tout à fait, je trouve, normal. Alors, je voudrais bien... Ne pas considérer que l'autre soit toujours inférieur, que l'autre a toujours tort et que peut-être que moi aussi, il faudrait que je regarde dans mon jardin. Et est-ce que vous avez une méthode, encore une fois?
Je voudrais qu'on parle de principes ou de réalités qui sont très très profondes, très personnelles, comme ce que c'est que la personnalité. Ce que c'est qu'une habitude et finalement comment est-ce que je peux moi en étant malléable dans la main de Dieu changer et changer de quelque chose qui me fait souffrir. Alors oui. J'ai dit comme mot donc personnalité, habitude et on parle d'être rebelle. La personnalité, il me semble que c'est la photographie de mon être intérieur au moment où j'en parle. Aujourd'hui, ma personnalité, elle est d'être comme ceci, mais demain, à 14h30, elle sera comme cela, parce que demain, elle sera ajoutée de l'ensemble des choses que j'aurais décidées, et elle sera amputée de l'ensemble des choses que j'aurais décidées également. J'aurais évolué demain, à 14h30. Ma personnalité, c'est l'ensemble des caractères qui me définissent, on appelle ça le caractère de quelqu'un, un ensemble des caractères, et le tempérament, c'est un peu la même chose, mais le tempérament, c'est à la fois ce qui me tempère, donc ce qui me modère, donc c'est l'expression de cette force en moi qui va me modérer, le tempérament, mais dans ma personnalité, c'est finalement la description de tout ce que je suis à un moment donné. Cette personnalité, c'est la somme des habitudes. Et une habitude, c'est, si j'ai l'habitude de me coiffer avec l'arrêt au milieu, si je me suis coiffé pendant 30 ans comme ça, c'est sûr que le matin, je vais prendre ma douche et automatiquement, je vais me faire une raie au milieu et je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vais faire une raie au milieu et puis que j'ai plus ou moins de cheveux. Hein, au bout de 30 ans, on a moins de cheveux, nous les hommes. Alors, on va faire une raie au milieu. On va peut-être remarquer qu'on a moins de cheveux, mais on aura cette habitude-là. Et une habitude, c'est finalement quelque chose qui s'installe et quelque chose qui se désinstalle. Si j'ai l'habitude de me faire l'arrêt au milieu, si par exemple du jour au lendemain je change d'habitude, ça va me faire bizarre. Mais au bout de 47 jours, je vais retrouver une habitude différente. La rébellion, c'est exactement ça. Pour 36 raisons, j'ai pris l'habitude d'être rebelle. Alors, prenons quelques exemples. Dans une famille où on est constamment en train de contester l'autorité, on est contre le président de la République, contre les ministres, contre les agents de police, les gendarmes, contre les enseignants, contre les médecins, contre tous ceux qui, quelque part, ont une autorité, et surtout l'autorité de l'État, mais quelque part, tous ceux qui ont une autorité. Pourquoi est-ce qu'on est contre? Eh bien, parce que on a constaté de différentes manières que l'autorité qui s'exerce à notre égard, mais les gens du gouvernement, l'éducation nationale, la police, etc., est une autorité qui est défaillante, qui est dysfonctionnelle et qui nous a blessés. À ce compte-là, la réaction la plus facile, c'est de mépriser l'autorité et de se poser contre l'autorité. Et c'est comme ça qu'on construit un tempérament rebelle. Le problème de ce tempérament, c'est que il ne mène nulle part. L'anarchie...
Oui, c'est pas constructif.
C'est pas constructif, ça n'a jamais mené nulle part. Et quelqu'un d'anarchiste, c'est quelqu'un qui est tout triste finalement, parce que qu'est-ce qu'il va faire, hein? Si, imaginez qu'il n'y a aucune règle dans notre pays, alors il suffit de retourner au Far West, où chacun avait sa propre règle, en ayant deux pistolets à 6 coups, peut-être à 7 coups même, oui. Hein, et en étant suffisamment rapide pour tuer avant d'être tué.
Oui.
Oui, mais ça, c'est l'anarchie, ça. Et donc, être rebelle, c'est être fondamentalement anarchiste, c'est essayer de régler quelque chose qui nous a fait souffrir, mais avec un mauvais procédé. Je suis rebelle, c'est quelque chose qui devrait être réglé, finalement, devrait parce qu'on souffre essentiellement, se dire mais ça sert à rien, et notamment il y a énormément de jeunes adultes qui restent rebelles contre leurs parents jusqu'à ce qu'ils meurent. Et pourquoi? Parce que les parents représentent une autorité dysfonctionnelle. Il y a eu des violences verbales, des violences sexuelles, il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes relationnels dans la famille, et ça fait que ça se passe très mal.
Oui. Et donc, pour s'en sortir ?
Pour s'en sortir, il y a donc lieu de bien comprendre que cette approche de rébellion ou de révolte est une impasse. Ce qu'il faut, c'est respecter l'autorité. Il faut plutôt soi-même trouver comment vivre cette souffrance et trouver la guérison de mes blessures. Mais alors ça, on en a parlé dans un autre enregistrement. Comment trouver... à soi-même, à être sur un rocher, sur le rocher de la main douce et souveraine de Dieu, avec des actions qui sont possibles pour nous, mais arrêter de se révolter contre l'autorité de celui qui la détient. Dans l'Église, par exemple, ce n'est pas parce que celui qui détient l'autorité le fait mal que je vais, moi, toujours lui reprocher, nier à l'autorité toute capacité à conduire. Non, il faut que j'apprenne à rentrer dans le respect de cette autorité et dans quelque chose qui va me permettre finalement de profiter de ce que l'autorité fera. C'est finalement reprendre une autre habitude. Considérer la personne qui est dans une structure d'autorité et qui est au-dessus de moi de manière respectueuse et de manière... finalement constructive.
Oui, mais une rébellion, raisonnée, peut très bien quand même faire évoluer certaines choses qui ne vont pas bien, parce que parfois, quand même, celui qui est rebelle a pu se rendre compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il est nécessaire de changer. Et il faut qu'il le fasse savoir.
Alors, donnez-moi quelques exemples. Hein, dans la famille, dans l'Église.
Quelqu'un qui par exemple, prenons peut-être même tout simplement le seul modèle que nous devions avoir, Jésus est passé pour un rebelle dans son milieu.
Alors contre qui s'est-il rebellé ?
Eh bien, il respectait pas la loi que l'on suivait depuis Moïse.
Alors, il ne respectait pas la loi des pharisiens.
Des pharisiens, oui.
Mais
oui,
celle
oui.
de Moïse, oui, il la respectait.
Oui, bien sûr, oui.
Parce que les pharisiens l'avaient détournée.
Donc il était bien obligé de paraître rebelle à cette habitude d'application de la loi en fonction des pharisiens.
Et c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, il paraissait rebelle pour les pharisiens. Mais il n'était pas rebelle à l'autorité. Il était en train d'apprendre à l'autorité ce qui était vrai. Hein, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, nous dit-il.
Oui, mais alors, rien à voir avec Jésus. Quand je dis « je suis rebelle », hein, au début, je me suis présenté comme rebelle. Ceux qui nous écoutent, pardon, que c'est un jeu de rôle, hein, quand même. Je suis rebelle. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que je veux faire la révolution ou que je veux changer le gouvernement. Je sais très bien que je ne peux pas. Nous sommes en France, nous sommes en démocratie, je sais que je peux le faire par un vote, d'accord, c'est tout. Mais dans le milieu où je suis, dans mon entourage, je peux être rebelle parce que je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose qui me paraît anormal et je voudrais que ça change. Donc vous voyez, je trouve que dans la rébellion, il y a un levain peut-être qui permet de faire changer les choses, de faire évoluer les choses.
Et vous avez dit, j'ai noté, je ne veux pas qu'on m'impose.
Oui, voilà.
Mais il est là.
Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Elle est là la clé, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autorité qui ait le droit d'imposer quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est un principe de secte. Ce n'est pas un principe d'autorité. C'est un principe de pouvoir, c'est un principe de domination, c'est un principe de destruction. Donc, mettons que, alors vous allez me dire, mais ce n'est pas vrai, puisque le gouvernement nous impose de ne pas dépasser 130 sur l'autoroute.
Mais là, il y a une raison.
Là, il y a une raison.
Ça s'explique, hein, ça se
comprend. C'est une loi de régulation, de trafic, une loi sociale, une loi de liberté collective. Mais je veux dire que, par exemple, dans l'église, si on vous impose de mettre une chemise bleue à carreaux, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Ben voilà, oui.
Hein, il faut, au contraire, que l'autorité impose à tous de respecter la liberté de chacun et de respecter non seulement la liberté de chacun, mais que chacun ait cette délicatesse d'avoir une opinion personnelle, de respecter l'autonomie.
Oui, mais
ça, c'est une véritable autorité.
Si je mets une chemise rouge pour aller effectivement, disons, au prochain office, on va dire ce qu'il est rebelle. On a dit qu'il fallait mettre une chemise bleue, il vient avec une chemise rouge. Donc, vous voyez.
C'est pour ça que je crois que.
Alors que c'est mon droit de mettre une chemise rouge.
On peut très bien respecter l'autorité en disant autorité, je vous respecte, je te respecte, mais je viens avec une chemise rouge. Parce que justement, ma référence, c'est la parole de Dieu. Et ma référence, ce n'est pas l'institution de l'Église, aussi vieille et habituelle soit-elle. Et donc, je crois que dans la mesure où on respecte l'autorité et où on vient dire à l'autorité ce qu'il en est absolument eu égard à la parole de Dieu, je crois que là, on a une démarche tout à fait constructive. Mmh. On peut dire la même chose de ses parents.
Oui.
Si j'ai un conseil à donner aux adolescents, c'est bien que ce soit difficile pour eux, qu'ils restent dans un dialogue avec les parents en disant « Je ne cherche pas à te fuir ou à te critiquer systématiquement. Moi, ce que je cherche, c'est à me trouver moi-même et à rentrer dans une démarche qui ne soit pas systématiquement de rébellion. » Alors, je voudrais faire une petite parenthèse.
Oui.
C'est que les gens qui ont tendance à persécuter leurs prochains, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cette tendance-là? Et c'est intéressant de voir dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14, dans les trois premiers versets, que Paul va dire que celui qui se fait des règles religieuses dans la vie, il est faible. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de règles. Dieu n'est pas un Dieu d'obligation. Dieu n'est pas un Dieu, justement, qui nous impose des choses. Dieu est un Dieu qui nous amène à la liberté chrétienne. Et alors, il va dire que celui qui se fait des règles, du genre « il ne faut pas que je mange telle ou telle viande » ou etc. Alors celui-là, celui qui voit son frère ne pas faire la même règle que lui, il va le critiquer, il va le juger.
Oui, oui, oui.
Et donc, Paul nous suggère que celui qui a tendance à persécuter son prochain, j'allais dire son chrétien, c'est celui qui se fait des règles. Donc comprenons bien que le plus souvent, notre rébellion, elle vient d'un problème personnel qui est une fausse sécurité. Je me mets dans une fausse sécurité en me mettant des règles. Par exemple, pour être un bon chrétien, il faut parler comme ça et ne pas parler comme ça. Il faut aller à l'église le dimanche et pas le samedi. Il faut s'habiller comme ceci et pas comme cela, etc. Mais ça, ce sont des règles. Et ce sont des règles qui, si elles sont l'essentiel de ma vie chrétienne et non pas cette liberté que j'ai avec Dieu, risque de m'amener dans une critique assez systématique des autres.
Ben oui, parce que je me rends compte que je suis manipulé, en fait. Si j'ai de ces règles dans mon église qui m'obligent à faire ceci, à faire cela, à ne pas manger de viande le vendredi ou autre chose, et ça n'a pas trop de rapport avec la vie et la relation qu'on peut avoir avec Dieu.
Oui, alors ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Hein, ce que je voulais dire, c'est que si je m'établis des règles pour ma propre vie, ceux qui ne vont pas obéir à ces règles-là,
ah oui,
je vais les critiquer.
Oui, 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 bien sûr, c'est toujours voilà. Un jugement sur l'autre.
Et donc, il faut bien que je comprenne, et on va s'arrêter là, il faut bien que je comprenne que c'est toujours moi qui alimente ma propre rébellion. Et donc, il faut que je trouve comment être parfaitement libre devant Dieu pour pouvoir finalement... donner aux autres,
la possibilité d'être libre.
Quelque chose de très agréable, de complètement, être devant les autres sans leur mettre une chape, une obligation. La vie chrétienne n'est pas une obligation. Finalement, par exemple, le choix de l'Église. Chacun a à se déterminer par rapport à sa propre paroisse et personne ne peut dire à quelqu'un « tu as fait un mauvais choix ». puisqu'en fait, le choix d'église doit résulter d'une attitude personnelle et libre devant Dieu.
Oui, à répondre à un élan personnel,
voilà.
Avec, vers Dieu.
Donc, ne pas être rebelle, hein, peut-être conclure avec un cap, c'est avoir cette liberté, cette souplesse devant Dieu de faire quelque chose et finalement de ne jamais le faire contre quelqu'un, mais de le faire pour Dieu et de le faire avec liberté.